الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous sommes toujours au début de la bataille de Uhud. Et on a expliqué que le début de la bataille de Uhud s'illustre par deux choses. La première, c'est que la série de duels qui a eu lieu entre le camp des idolâtres et le camp des musulmans se solde par une défaite cuisante pour les idolâtres. Il y a eu 11 duels, comme on a dit, selon les différentes versions. 11 duels, et tous les duels ont été gagnés par les musulmans. Ce qui a valu que l'étendard des idolâtres, dès le début de la bataille, il est à terre et plus personne n'ose le ramasser, puisque ceux qui font les duels, ce sont ceux qui portent les étendards. Et donc, il y a un seul étendard qui flotte dans le ciel, c'est celui des musulmans, dès le début de la bataille. La deuxième chose par laquelle s'illustre le début de la bataille de Uhud, c'est que malgré que les idolâtres sont trois fois plus nombreux que les musulmans, et bien plus armés, bien plus puissants, que l'armée musulmane, ce début de la bataille, c'est une victoire. Et la victoire commence à se dessiner pour les musulmans, même si, comme on sait, finalement, la bataille de Uhud, ça va être une défaite, un échec pour les musulmans. Et ça, on va y revenir, on va expliquer les causes de cet échec et de cette défaite. Donc, on a aussi expliqué que c'est la guerre, c'est la bataille, même si pour l'instant il y a une sorte de victoire qui est en train de se dessiner pour les musulmans, cela n'empêche que c'est la guerre et donc les musulmans perdent aussi des hommes, comme les idolâtres en ont perdu, même s'ils en ont perdu beaucoup plus. On a parlé du premier à être tombé en martyr, à être mort dans la bataille de Uhud, dans le camp des musulmans, c'est le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Je ne vais pas revenir sur lui, on a assez parlé. Ensuite, on a parlé, et c'est là où on s'est arrêté, de Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Le compagnon Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Hanzala ibn Abi Amir, qui a été surnommé par le professeur sallam, Rassilul Malaika, le lavé par les anges. Et justement, s'il a été surnommé ainsi, c'est tout simplement parce que Hanzala ibn Abi Amir, comme on l'a déjà dit, il sort cette nuit-là pour la bataille de Uhud alors que c'est sa nuit de noces. Donc il abandonne, entre guillemets, sa nuit de noces, il abandonne son épouse et il n'a même pas le temps de faire ghuslul janaba, les grandes ablutions, les ablutions majeures, et de peur de ne pas sortir à temps pour l'armée. Donc il sort sans faire les grandes ablutions. Et il sera tué dans cette bataille. Et le professeur Hassan, à la fin de la bataille, dira: cet homme est lavé par les anges. Allez questionner, allez interroger son épouse. Quel est son secret pour qu'il soit lavé par les anges? Quand ils vont questionner l'épouse, c'est l'épouse qui va expliquer qu'il est sorti sans avoir pu faire les grandes ablutions. Naam. Et donc il tombe en martyr en état de janaba. Et donc ce sont les anges qui s'occupent de le laver. Naam. Et on avait expliqué également que Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, dès le début de la bataille, il y a son père, que le professeur, son père s'appelle Abu Amir, et que les idolâtres appellent Ar-Rahib, Abu Amir Rahib, Abu Amir, le moine, entre guillemets, l'ascète, le pieux. Il était ainsi vu par les idolâtres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il l'a surnommé Abu Amir Al-Fasiq, Abu Amir le corrompu, puisqu'il va trahir la ville de Médine. À la base, c'est un chef dans la ville de Médine, et il va trahir le pacte qui le lie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va rejoindre, se réfugier à la Mecque auprès des idolâtres, et il va même inciter les idolâtres à prendre le plus vite possible leur revanche de Badr. Et il va leur promettre qu'au moment de la revanche, il sera là pour influencer tout le camp des Médinois afin qu'ils ne livrent pas bataille contre les musulmans. Et donc Abu Sufyan, lorsqu'ils vont arriver à Uhud, il va dire « Alors ta promesse, vas-y fais-le ». Et donc il va venir s'adresser aux Médinois, mais évidemment, ils vont lui répondre ce qu'ils n'aiment pas entendre. Et donc, cet homme-là, c'est qui ? C'est le père du compagnon Hanzala ibn Abi Amir qui va perdre la vie, lui aussi, dès les premiers instants de la bataille, puisque lui, dès le début, Hanzala ibn Abi Amir, radiallahu anhu, va avoir un plan en tête, c'est d'aller affronter Abu Sufyan et de le tuer. Mais, donc il l'affronte en duel, sauf que Abu Sufyan, il est sur le point de perdre ce duel, mais il y a un de ses amis, un de ses collègues à Abu Sufyan, c'est-à-dire Shaddad ibn al-Aswad, qui était surnommé par les idolâtres ibn Sha'oub, parce que sa mère s'appelait Sha'oub, qui va venir à sa rescousse et qui va tuer Hanzala ibn Abi Amir et ainsi sauver le chef des idolâtres de l'époque, même s'il se convertira bien plus tard, Abu Sufyan radiyallahu anhu. Et donc on a dit ce début de bataille est tout de même une sorte de victoire pour l'instant pour les musulmans. Et les musulmans, même s'ils sont trois fois moins nombreux et beaucoup moins armés que les idolâtres, ils en font voir de toutes les couleurs à l'armée idolâtre. Dans l'ensemble, l'armée musulmane en fait voir de toutes les couleurs à l'armée des idolâtres. Mais bien sûr, ça c'est un ensemble. Et à l'intérieur de cet ensemble, il y a des personnes, des individualités qui s'illustrent et qui, eux, tout seuls, font la différence. Et il y en a plusieurs. On a déjà cité Zubayr ibn al-Awwam, qui dans un des duels, alors que l'un des Bani Abdiddar, parmi les idolâtres, s'avance sur son chameau et commence à faire des rimes, et qui dit « Qui oserait m'affronter en duel ?» Il ne lui laisse pas le temps de réagir et il bondit sur la chamelle de l'idolâtre alors que l'idolâtre, il a donc un cran d'avance, il est au-dessus, il est surélevé. Et Zubayr ibn al-Awwam, il est à terre. Il bondit sur la chamelle, le fait tomber à terre et il l'achève. Donc on a des gens comme ça, des compagnons comme Zubayr ibn al-Awwam qui s'illustrent, qui à eux seuls sont redoutables et font la différence. On a aussi cité Abu Dujana. On a aussi cité Abu Dujana, radiyallahu anhu. Son vrai nom, c'est son surnom Abu Dujana. Son vrai nom, c'est Simak ibn Kharasha, radiyallahu anhu. Lui qui a eu l'honneur et le privilège de prendre et de saisir l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mani akhudhu hadha as-sayfa bihaqqihi » Qui prendra cette épée, mais en échange de respecter son droit? Et alors que plusieurs compagnons la réclament et acceptent, c'est Abu Dujana à qui le professeur Hassan la donnera. Et il va demander c'est quoi son droit ? Il va lui dire son droit, c'est que tu ne laisses échapper aucun ennemi de cette épée qui se présentera à toi et que tu ne l'utilises contre aucun musulman. Et il va mettre son bandeau. Il va attacher son bandeau autour de la tête, son bandeau rouge. Et il va se pavaner d'une démarche orgueilleuse. À un tel point que le professeur Hassan va dire c'est une démarche qu'Allah Azzawajal déteste, sauf dans ce genre de situation. Et ça, on en a déjà parlé, ces deux personnes, ces deux compagnons, radiyallahu anhu. Et dans ce début de la bataille, il y a quelqu'un qui s'illustre aussi et qui s'est largement illustré depuis le début, depuis sa conversion en vérité. Cet homme, c'est qui ? C'est l'oncle du prophète Mohammed, le compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, celui qu'on surnomme Asadullah, le lion d'Allah. Hamza ibn Abd al-Muttalib, comme on a dit, il s'est illustré depuis sa conversion. On rappelle que lorsqu'il s'est converti, il s'est converti, entre guillemets, pour répondre à une injustice qui avait été commise à l'égard de son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Jahl l'avait frappé, il l'avait d'abord insulté, ensuite il l'a frappé. Et lorsqu'il a su qu'il l'avait insulté et frappé, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui rentrait de la chasse, il est parti directement voir Abu Jahl. Et il l'a insulté, ensuite il l'a frappé avec son arc, et il lui a dit « Atashtumu ibn akhi wa ana ala dini aqulu ma yaqul faruddaha alayya in istata't. » Est-ce que tu as insulté le fils de mon frère, mon neveu, alors que je suis dans sa religion? Moi aussi j'adhère à sa religion. Aqulu ma yaqul, je dis ce qu'il dit. Et il le frappe, et ensuite il lui dit farudda dhalika alayya in istata't, rends-le-moi si tu oses. Il lui a mis un coup, il lui a dit, allez, rends-moi ce coup si tu oses. Abu Jahl, il sait à qui il a affaire. Donc il ne bouge pas. Par contre, sa tribu, les Bani Makhzoum, ne sont pas contents. Et donc ils se lèvent, et par esprit tribaliste, ils vont vouloir venger leur chef, Abu Jahl, et ils vont dire, Hayya Abu Jahl. C'est-à-dire, venons à Abu Jahl, venons sauver et aider et soutenir Abu Jahl. Et là, les Bani Hashim, ceux qui ont un lien de parenté dans la tribu de Hamza ibn Abd al-Muttalib, se lèvent et ils disent « Hayya Hamza, venons à Hamza ». Mais ici, pour pas qu'il y ait de guerre fratricide, tout de suite Abu Jahl va dire « Da'u Aba Imara ». Laissez Abu Imara, c'était le surnom de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Laissez Abu Imara « Fa inni sababtu ibn akhihi sabban qabiha ». Laissez Abu Imara, parce que c'est vrai, j'ai abusé dans les insultes contre son neveu. J'ai été trop loin, j'ai été excessif. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, à la hijra. Quand les compagnons devront faire la hijra, lui va la faire ouvertement. Et il va prendre des groupes, un groupe de compagnons qui ont peur de la faire ouvertement. Et il va les soutenir, les protéger. Il va devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la hijra. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, à la bataille de Badr. Aussi, il va en faire voir de toutes les couleurs aux idolâtres. À un tel point que Safwan ibn Umayya, vous vous rappelez Safwan ibn Umayya, un des chefs idolâtres qui ne voulait pas participer à cette bataille parce qu'il se rappelait d'une prédiction, d'une prévision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait dit « Tu seras tué en dehors de la Mecque ». Et donc il avait fait la promesse et il avait fait l'engagement qu'il ne sortirait plus jamais jusqu'à la fin de ses jours de la Mecque. Vous avez vu la contradiction? Il ne croit pas, il refuse de croire à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps il croit à ce qu'il dit. Parce qu'il sait que s'il dit ça, c'est que ça va se passer. Donc il a refusé de sortir de la Mecque. Sauf que comme il va être traité de lâche et tout ça, on va pas revenir sur ce récit, il va finalement sortir. Et quand il va arriver à la bataille de Badr, comme il a peur d'être tué, il va aller voir son ami, le compagnon médinois, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, c'est un compagnon de la Mecque, le Muhajir. Et c'était un ancien ami dans la Jahiliya de Safwan ibn Umayya. Donc il va aller le voir. Il va lui dire, rappelle-toi de notre amitié, comment nous étions proches. Fais-moi prisonnier, afin que j'ai la vie sauve, et en même temps, toi, tu sais qui je suis, et tu sais ce que j'ai, ce que je possède. En échange de ma libération, tu gagneras beaucoup. Donc Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, accepte, au nom de l'amitié qu'ils avaient, au nom de ce qu'ils ont vécu, de le faire prisonnier. Et parce que, au-delà de tout, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, les compagnons ne cherchent pas à faire couler le sang. S'ils arrivent à trouver des arrangements et à pouvoir pratiquer leur religion sereinement et librement, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne font la guerre et le combat que parce qu'ils y ont été forcés. Donc Abdurrahman ibn Auf accepte, sauf que quand Bilal ibn Rabah, qui était l'ancien esclave de Safwan ibn Umayya, reconnaît son ancien maître qui l'a tant persécuté, tant torturé, et qu'il le reconnaît, il dit « La najawtu in naja ». Je ne peux être sauvé si lui, il est sauvé. Je ne peux avoir la vie sauve si lui, il a la vie sauve. Sauf qu'Abdurrahman ibn Auf, il s'interpose et il dit « C'est mon prisonnier, tu n'as pas le droit de le toucher. » Et là, Bilal, radiyallahu anhu, il dit « Prisonnier, oui, pour d'autres. » Lui, il n'a pas le droit d'être prisonnier. Après tout ce qu'il nous a fait subir, il aurait le droit d'être prisonnier, ce n'est pas possible. Et bien là, Bilal ibn Rabah, il se rappelle. Il a été affecté dans sa chair par cet homme. Quand il était à l'état d'esclavage, d'abord en tant qu'idolâtre, en tant qu'esclave, mais au-delà de ça, lorsque Umayya ibn Khalaf, Safwan ibn Umayya Afwan, quand Safwan ibn Umayya a découvert qu'il était converti à l'islam, il l'a torturé de toutes les sortes de tortures, parmi lesquelles les coups de fouet qui n'en finissaient pas, il l'a affamé, il l'a soiffé, il le faisait traîner dans la ville de la Mecque tout nu en lui disant « Tes habits, je suis ton maître, c'est moi qui te les offre. Et si tu refuses d'être sur la religion de ton maître, eh bien tu seras nu et tu seras humilié devant les gens. » Il le mettait, il le donnait aux enfants avec une corde autour du cou quand il avait des affaires à régler. Il le donnait à des enfants, et on sait comment les enfants peuvent être cruels. Et il leur disait, c'est votre jeu. Frappez-le, crachez-lui dessus, faites-lui ce que vous voulez pendant la journée. Là, je suis occupé, je le récupérerai le soir. Il le mettait au plein milieu du désert, sans habit, dans une armure en acier, en fer, sous les 45-50 degrés du désert. Et les degrés ressentis, quand on est au milieu du désert et on n'est pas sous l'ombre, ça avoisine les 60 degrés. Et vous savez l'effet que ça fait sur le fer. Et sa peau, elle était directement dans l'armure en fer, sans habit. Afin que sa peau, elle brûle à l'intérieur. Et il lui disait, il te suffit de dire une seule parole. Que tu es un idolâtre. Il disait, élève le nom de la divinité Hubal et je te libère de tes tortures. Et lui, il ne cessait de répéter, malgré toutes ses tortures et ses souffrances, « Ahadun ahad, fardun samad ». Unique, unique, en parlant d'Allah. Il est l'unique, l'unique, fardun samad. Fardun, donc le seul, l'unique, samad, celui dont, il n'y a pas d'équivalent en français, il faut faire une phrase pour expliquer ce nom d'Allah, as-samad, c'est celui dont tout le monde dépend et lui ne dépend de personne. L'autosuffisant. Non. Et donc Bilal ibn Rabah, quand il voit son ancien maître Safwan ibn Umayya à Badr, tout ça, ça lui revient en tête. Et donc il dit La najawtu in naja. Je ne peux être sauvé si lui il est sauvé. C'est mon prisonnier, lui dit Abdurrahman ibn Auf. Pas pour lui. Lui n'a pas le droit d'être prisonnier. Et comme il voit qu'Abdurrahman ibn Auf ne le laisse pas, il s'interpose, il en appelle aux autres compagnons. Et Bilal, radiyallahu anhu, il dit aux autres compagnons, regardez, c'est Safwan ibn Umayya, lui qui nous a fait tant de mal, il est là, et il veut se dérober en prétendant qu'il est prisonnier, pas de prisonnier pour lui, pas de statut de prisonnier pour lui. Et donc c'est ainsi, on avait vu en détail, qu'il va perdre la vie, Safwan ibn Umayya. Mais pourquoi je parle de ça? Quel rapport avec Hamza? Et bien vous allez comprendre. À ce moment-là, avant que Bilal le reconnaisse et qu'il vienne d'être fait prisonnier par Abdurrahman ibn Auf, donc c'est un arrangement entre eux, il se sent à l'aise, il se sent libre, en sécurité en tout cas, même s'il n'est pas libre puisqu'il est prisonnier. Il va dire à son ancien ami Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il va lui dire « Qui est l'homme là-bas ?» Donc le combat il continue à avoir lieu. Il dit, qui est l'homme là-bas qui bondit dans tous les sens et qui frappe tout le monde? Et qui, man ar-rajul al-mu'allam bi rishatin 'ama, il va lui dire. Qui est cet homme al-mu'allam bi rishatin 'amatin fi sadrihi, qui a une plume d'autruche sur son torse? Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, il avait mis une sorte d'armure pour se protéger des coups d'épée, des coups de flèche, et qui, sur laquelle, pour décorer cette armure, il y avait au milieu une plume d'autruche. Naam. Et Abdurrahman ibn Auf va dire Dhalika ammu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza ibn Abd al-Muttalib. C'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et qu'est-ce qu'il va lui dire, Safwan ibn Umayya? Il va lui dire فَذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلِ فَذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلِ C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui est contre nous aujourd'hui. Yani, ce qu'il veut dire par là, s'il y a quelqu'un qui fait la différence aujourd'hui, c'est lui. S'il n'y avait pas lui, vous auriez perdu. Mais c'est parce qu'il est là et parce qu'il fait tout ce qu'il fait que vous êtes en train de gagner et que vous allez gagner cette bataille. Et c'est ainsi que Hamza ibn Abd al-Muttalib est vu. Et c'est pour ça aussi qu'une haine va s'installer. Alors il y avait déjà une haine à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les idolâtres, mais il y a une haine qui va s'installer à partir de Badr jusqu'à Uhud contre Hamza ibn Abd al-Muttalib. À un tel point, comme on l'a vu, que des plans vont être faits pour payer un homme, Wahshi, qui va avoir comme seule mission de tuer Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, à la bataille de Badr. Donc, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qu'est-ce qu'il fait au début de cette bataille? Comment il s'illustre? Et bien, si on cherche dans les différentes versions, dans les livres d'histoire, dans les livres de hadith, on va essayer d'amener plusieurs versions différentes qui nous parlent de ce que Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, il fait. La première version, c'est une version authentique, la version de Al-Bukhari. C'est une version authentique. Et à propos de cette version, on avait déjà commencé à parler il y a quelques semaines. C'est un long hadith, donc on ne va pas le traduire en entier. Mais pour résumer, ce hadith, il nous dit quoi? Et je rappelle, c'est un hadith dans l'authentique de Bukhari, donc il est authentique. Ce hadith nous dit que bien après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et alors que Wahshi est encore vivant, et qu'il vit dans la ville de Hims, une ville en Syrie qui existe encore aujourd'hui, Hims, en français je crois qu'ils disent Homs, à la Kulihal, la ville de Hims, et il y a deux hommes, deux tabiri, qui sont de retour d'une expédition et qui passent par cette ville. Et l'un des deux dit à l'autre, je sais que dans cette ville vit encore un homme qui était vivant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui était compagnon puisqu'il s'est converti à l'islam et qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque la définition du compagnon, c'est quoi? C'est pas juste être musulman au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y en a plein qui étaient musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la définition, c'est celui qui était musulman, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant en étant musulman, et qu'il est mort sur cela. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant en étant musulman. Parce qu'il y en a, ils ont pu le voir alors qu'ils n'étaient pas musulmans. Et ensuite, plus tard, ils se sont convertis, mais ils ne l'ont pas revu après s'être converti. Donc, il n'a pas le statut de compagnon. Certains les appellent al-mukhadramoun. C'est entre les deux. On ne peut pas vraiment lui donner le statut de compagnon. Le compagnon, selon la définition des savants, c'est celle-ci. Celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant. Qui vivant? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vivant, il l'a vu vivant. En étant musulman. Qui? Celui qui l'a vu. Il était musulman au moment où il l'a vu. Wa mata ala dhalik. Et il est mort dans cette situation, c'est-à-dire il est mort musulman. Il est parvenu sur cette foi. Naam. Et Wahshi en fait partie. Il y en a un moment où il se convertit, il est musulman. Et il est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le voit. Naam. D'ailleurs, certains savants disent que c'est mieux de ne pas dire. Parce que la définition qui est donnée, c'est man ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam musliman wa mata ala dhalik. Celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant et qui est mort dans cet état-là. Certains savants disent, il faut nuancer et dire man laqiya, celui qui a rencontré. Pourquoi? Ils disent, le compagnon par exemple Ibn Ummi Maktoum était aveugle, donc il ne l'a pas vu. Mais il était avec lui, il l'a rencontré, il a parlé avec lui. Donc ils disent, si on dit il l'a vu, peut-être que certains, s'ils le prennent à la lettre, ils vont sortir certains compagnons qui étaient aveugles alors qu'ils ont rencontré le prophète sallam en étant musulmans et le prophète sallam était vivant. Donc le mieux c'est de dire celui qui a rencontré le prophète sallam en étant musulman et qu'il l'a rencontré vivant, wa mata ala dhalik, et il est mort dans cette situation. Donc Wahshi vivait à Hims et ces deux hommes arrivent à Hims et l'un des deux dit à l'autre: je sais qu'ici il y a Wahshi qui vit dans cette ville. Et c'est celui qui a tué l'oncle du prophète sallam, Hamza ibn Abdel Muttalib. Et il a vécu la bataille de Uhud de l'autre côté. Et c'est important ça. Nous, on a les versions des compagnons, ils l'ont vécu dans le camp des musulmans. Mais là, on a la version de quelqu'un qui l'a vécu de l'autre côté. Comme si vous vous rappelez la bataille de Badr, quand on l'a fait, on avait beaucoup pris pour voir comment les idolâtres l'avaient vécu, une version d'un compagnon qui avait vécu la bataille de Badr en étant idolâtre, il n'était pas encore converti à l'islam. Hakim ibn Hizam. Et ici, la même chose, ces deux hommes, ils disent, il nous faut avoir la version de quelqu'un qui l'a vécu en étant idolâtre. Wahshi. Et surtout qu'il nous raconte comment ça s'est passé, puisque c'est lui qui a tué Hamza ibn Abdul Muttalib, comment ça s'est passé lorsqu'il a tué le compagnon Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu. Et donc, ils vont le voir et ils lui disent, donc si je prends que la version de Al-Bukhari, ils vont voir des gens, ils leur demandent où est-ce qu'on peut trouver Wahshi et ils leur indiquent, ces gens leur indiquent, voilà où est-ce qu'il habite, allez dans cet endroit-là, vous allez le trouver là-bas. Si je sors de la version de Al-Bukhari et que je vais dans d'autres versions, et je le précise parce que vous pourriez rencontrer ces versions. Qu'est-ce que ces versions disent? Et c'est des versions qui sont réutilisées aussi par les chiites. Mais qu'on peut retrouver dans certains ouvrages sunnites qui parlent de l'histoire. Dans ces versions, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans d'autres versions, pas celles de Al-Bukhari, on nous dit qu'on l'a répondu à ces deux hommes. Voilà où est-ce qu'il habite, mais regardez d'abord, est-ce qu'il est sobre? Est-ce qu'il a à jeun? Parce qu'il boit beaucoup et que quand il est en état d'ivresse, il n'a pas toute sa tête, donc il ne pourra pas répondre à vos questions. Regardez d'abord s'il est sobre, s'il en est dans tout son état. Et ces versions qui parlent, qui rajoutent cette information qui n'existe pas dans l'authentique d'Al-Bukhari, quand on regarde les chaînes de transmission, elles ont toutes été affaiblies, mais d'une raison forte, comme la cause du mensonge. Parce qu'il y a plusieurs hadiths, plusieurs types de hadiths faibles. Il y a le hadith faible parce qu'un narrateur est oublié, il y a un hadith faible parce qu'un narrateur était connu pour confondre, un hadith faible parce qu'un narrateur était connu pour mélanger entre les hadiths. Mais il y a un hadith faible parce que dedans, il y a un narrateur qui est connu pour mentir. Pour réinventer, là c'est pire. Et c'est le cas ici. Ces versions, elles sont mensongères. Comme ça, vous le savez, si un jour vous rencontrez ces versions-là. Et à ne pas confondre avec celles qu'il y a dans l'authentique. Parce que quelqu'un, il pourra vous raconter l'histoire et vous allez dire, oui, je l'ai déjà entendu. Sauf que dans ces autres versions, il y a cette information en plus qui est totalement mensongère. Et ça a été prouvé par les savants du hadith, qui ne laissent rien au hasard, qui sont très rigoureux dans leur travail d'enquête, dans les chaînes de transmission. Ils ont largement prouvé le type mensonger de ces versions. Ala kulli hal. Et donc nous, on a la vraie version, la version authentique, qui nous dit, allez le voir, il habite à tel endroit, et donc ils y vont. Et lorsqu'ils le rencontrent, les deux hommes, ils étaient enturbanés, et ils avaient mis leur turban sur le visage. Parce qu'un des deux hommes connaissait Wahshi, et Wahshi le connaissait. Il était l'esclave de sa tribu, de sa famille, à l'époque. Donc même si ce compagnon, ce tabi'i, Afwan, est un descendant de ceux qui étaient le maître de Wahshi, il pourrait le reconnaître, il y a un air de famille. Donc Wahshi, il est assis, et quand ces deux hommes vont le voir, celui qui se cache pour pas qu'il le reconnaisse, il lui dit, est-ce que tu sais qui nous sommes? Il dit, je ne sais pas qui vous êtes, et surtout que vous cachez vos visages. Mais la seule chose, c'est que je me rappelle lorsque j'étais esclave à la Mecque, j'avais parmi mes missions, quand les nouveau-nés de la famille naissaient, je devais leur trouver une nourrice. Et je me rappelle que mon maître, lorsqu'il a eu un enfant, cet enfant, je l'ai porté auprès des nourrices pour le proposer aux nourrices. Donc, il faisait un test. Vous savez, les nourrices, elles leur donnaient le sein. Et si, entre guillemets, ça accrochait, alors elles pouvaient le prendre pour le nourrir, pour l'allaiter. Et en échange, elle avait une compensation financière. Mais il fallait d'abord voir si le bébé, entre guillemets, il était à l'aise, il acceptait de prendre de son sein. Donc, il disait, j'ai pris le nouveau-né et je l'ai tendu à une nourrice. Et lorsque la nourrice me l'a rendu, donc elle a fait le test, et lorsqu'elle me l'a rendu, il m'a frappé avec ses pieds, le nourrisson. Et je me rappelle de ses pieds, comment ils étaient. Et je crois reconnaître ces pieds-là, mais à l'âge adulte. Il regarde ses pieds à lui, il lui dit, je crois reconnaître ces pieds-là à l'âge adulte. Naam. Et c'était en effet, c'était lui, subhanallah. Naam. Mais comme on avait aussi expliqué, les Arabes de l'époque, ils avaient une sorte de firas, ils étaient physionomistes. Et c'était même à l'époque une science qui s'apprenait. On regardait les signes, les traits du visage, la démarche, la corpulence, etc. Et en fonction de ça, c'était une sorte de profiler. On disait, donc cet homme, il est comme ça, ou il peut penser comme ça, ou il va s'orienter vers telle chose ou telle chose, parce que physiquement, voilà comment il est, ou voilà comment il marche, ou voilà la couleur de ses yeux. Non. Et ça a toujours fait l'objet de divergences entre les savants à l'époque, plus aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui ne s'étudie plus. Mais à l'époque, ça faisait l'objet de divergences entre les savants. Est-ce que c'est une science vraiment sur laquelle on peut se baser ou pas? En tout cas, c'était une science qui s'apprenait, et c'était une science très répandue au Yémen. Les gens qui voulaient vraiment s'expertiser et se familiariser avec cette science, ils allaient jusqu'au Yémen, comme l'a fait l'imam Shafi'i, rahimahullah. Donc à ce moment-là, il demande à Wahshi, il lui dit, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as tué Hamza? Et nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant dans cette version, c'est comment il va décrire Hamza au début de la bataille. Parce que c'est à ça, pour l'instant, c'est ça qu'on veut voir, nous. Comment Hamza agit au début de la bataille. Il va dire, Inna Hamzata ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب رضي الله عنه قتل طعيمة بن عدي ببدر. حمزة a tué طعيمة ابن عدي à بدر. حمزة il a tué plusieurs personnes à بدر et parmi lesquelles il a tué طعيمة ابن عدي, un des notables de la Mecque. فقال لي مولاي عفوا فقال لي مولاي Jubayr ibn Mut'im. Et mon maître m'a dit, à son retour de Badr, donc. Et son maître, c'était qui? C'est Tu'aima ibn Jubayr ibn Mut'im, pardon. Donc on a dit, c'est qui a été tué par Hamza? Tu'aima ibn Adi. Suivez-moi, vous allez comprendre. Tu'aima ibn Adi a été tué par Hamza. Et le maître de Wahshi s'appelle comment? Il s'appelle Jubayr ibn Mut'im ibn Adi. Donc on en a un qui s'appelle Tu'aymatu ibn Adi, Tu'ayma fils de Adi. Et l'autre, le maître de Wahshi, s'appelle Jubayr, fils de Mut'im, fils de Adi. Ça veut dire qu'en fait, le maître de Wahshi, c'est le neveu de l'homme qui a été tué à Badr. Jubayr, fils de Mut'im, fils de Adi. Et celui qui a été tué à Badr, Tu'aima, fils de Adi. Non. Le frère de celui qui a été tué à Badr, c'est le père du maître de Wahshi. Donc Wahshi, il continue, il explique. Il dit, فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمْ. Donc, quand ils ont su que Tu'aima ibn Adi a été tué, il dit, mon maître, Jubayr ibn Mut'im m'a dit, إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. Si tu tues Hamza contre mon oncle, entre guillemets pour venger mon oncle, فأنت حر. Tu es libre. Il dit فلما أن خرج الناس عام عينين. Et lorsque les gens sont sortis l'année de عينين. Les idolâtres rappelaient cette année-là l'année de عينين. Pourquoi ? Parce que c'est عينين, c'est le nom d'une petite montagne en face de Uhud. C'est là où les idolâtres se sont installés pour la bataille de Uhud. Et donc, ils avaient l'habitude, les idolâtres, pas d'appeler cette année-là l'année de Uhud, mais ils l'appelaient l'année de عينين. Il dit فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ خَرَجْتُ مَعَهُمْ لِلْقِتَالِ. Et lorsque les gens de la Mecque sont sortis pour l'année de عينين, l'année de Uhud, pour combattre, je suis sorti avec eux pour le combat. فَلَمَّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ. Et lorsqu'ils se sont rangés, ils se sont mis face au camp des musulmans pour le combat. خَرَجَ سِبَاعٌ. Siba' ibn Abd al-Uzza, il est sorti. C'est un des duels qu'on a déjà vu. Kharaja Siba' faqala hal min mubariz. Siba' ibn Abd al-Uzza, avec l'étendard, il est sorti. Il a dit, qui oserait m'affronter en duel? Faqala Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et Hamza ibn Abd al-Muttalib, il a dit quoi? Il a dit, halumma ilayya yabna ummi Anmar, muqatti'at al-budhur. Viens à moi, fils de Ummu Anmar, fils de l'exciseuse. On avait vu ça. Hein? Aïwa. Il dit, donc il lui dit, Wahshi explique, il lui dit, Yabna Muqatta'at al-Budhur, toi qui es le fils de l'exciseuse, viens à moi. Moi, je vais t'affronter. Atuhaddullah wa rasulah, oses-tu être hostile à Allah et son messager? Et Wahshi dit, فَشَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ. Il dit, il a bondi sur lui, et en un instant, il est devenu comme hier. Ça veut dire quoi cette expression? فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ. Il est devenu comme hier. Ça veut dire, en un instant, il n'existait plus. Il est mort en un instant. Ça n'a pas pris du temps ou là. Fort. Khlas. En un instant. فَكَانَا كَأَمْسِ الذَّاهِبِ. Tout de suite. Il est devenu comme hier. Il n'existait plus. Il dit, فَكَمَنْتُ لِحَمْزَ تَحْتَ صَخْرَ. Et à ce moment-là, je me suis caché. Ah, je me suis caché pour Hamza derrière un rocher. Il se cache pour pas que Hamza le voie, parce qu'il voit à qui il a affaire là. En un instant, l'autre est devenu comme hier. Donc, il ne faut pas aller face à face. Donc il dit, je me suis caché derrière un rocher. Et la suite du hadith, comment il l'a tué, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais d'abord cette phrase. Et cette explication, elle nous montre que Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, il est impressionnant. Que ce soit dans le parler, il fait peur à ses ennemis. Et que ce soit dans les actions. En un instant, il dit, فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ. Et ça, c'est la version de Al-Bukhari. Et si on prend d'autres versions, comme la version de Abu Daoud al-Tayalisi, je précise al-Tayalisi pourquoi ? Parce que souvent on entend un hadith rapporté par Abu Daoud. Il y a plusieurs Abu Daoud. Il y a Abu Daoud, tout court, et il y a Abu Daoud, celui qui est plus connu par le nom de Abu Daoud al-Tayalisi. Ce n'est pas les mêmes. Aïwa. Abu Daoud tout court, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les recueils de hadith. Sunan Abi Daoud, les recueils de Abu Daoud, c'est Abu Daoud tout court. Même si en vérité, on peut aussi l'appeler Abu Daoud al-Sijistani, parce qu'il venait d'une contrée qui s'appelle Sijistan. Mais si on dit Abu Daoud tout court, on sait qu'il s'agit de lui. Par contre, l'autre Abu Daoud, qui est moins connu, là, pour ne pas le confondre avec l'autre, il faut préciser Abu Daoud al-Tayalisi. Lui aussi, il a rapporté des hadiths. Et il a fait partie des maîtres, des chouyours de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Abu Daoud al-Tayalisi, il a vécu dans les années 200, au début des années 200, et il a fait partie des maîtres, des chouyours en hadith, les professeurs de hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais là aussi, il y a un point commun avec l'autre Abu Daoud, Abu Daoud tout court ou Abu Daoud al-Sijistani, parce que lui, il a vécu bien après, il a vécu dans les années 200, à la fin des années 200, donc bientôt 300. Sauf que lui, il était l'élève de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il faut faire attention. Abu Daoud Tayal ici, le moins connu, il était le maître de Ahmad ibn Hanbal. Et Abu Daoud al-Sijistani ou Abu Daoud tout court, qui était à l'origine des recueils de hadith, c'est l'élève de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et à la kulli hal, dans la version d'Abu Daoud Tayal ici, on nous dit فَإِذَا حَمْزَةُ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقٌ لا يرفع له احد الا قمعه بسيفه فهبته. Dans cette version, Wahshi dit فاذا حمزه ابن عبد المطلب. Et d'un coup j'ai vu Hamza, soudain j'ai vu Hamza ibn Abd al-Muttalib, كانه جمل اوراق. C'est comme s'il était un jamal awraq. C'est quoi le jamal awraq? C'est un jamal, c'est chameau. Awraq, c'est quoi? Je vais expliquer après, c'est un peu compliqué. C'est comme s'il était un chameau awraq. La yarfa'u lahu shay'un illa qama'ahu bis-sayfi fahibtuhu. À chaque fois que quelque chose se levait devant lui, il le faisait redescendre avec son épée. Quand il dit quelque chose, il veut dire une personne, quoi que ce soit, un bouclier, allez hop. Dès que quelque chose se lève, paf, à terre, paf. Tout ce qui se lève devant lui, ajib yani. Il dit « Fahibtuhu » et donc j'ai été terrifié, je l'ai craint. Voilà de qui il s'agit au début de la bataille. En quoi la perte de Hamza ibn Abd al-Muttalib, elle va être un coup dur porté à l'armée des musulmans. « Fahibtuhu » je l'ai craint. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par « il est tel un chameau awraq » Ici, « il est tel un chameau awraq » c'est-à-dire l'awraq, c'est une couleur. Ça peut vouloir dire une couleur. C'est quoi? C'est le blanc et le noir. Il y en a un mélange de blanc et de noir. Donc soit, ça le décrit selon les couleurs qu'il portait. Il était habillé de blanc, mais avec son armure noire, un turban noir, casque noir, etc. Donc il y avait du blanc et du noir. Donc peut-être qu'il dit qu'il était tel un chameau awraq, dans le sens de la couleur, il était comme les chameaux blancs et noirs, c'est-à-dire il était vêtu de blanc et de noir. Soit le mot awraq peut également vouloir dire le chameau, quand on dit al-jamal al-awraq, le chameau awraq, c'est pour décrire les chameaux qui sont lents, posés, tranquilles. Et ici, c'est moins probable. Quel rapport entre le fait d'être lent, prendre tout son temps, et le fait de dire qu'il est impressionnant dans la bataille? Donc, ce n'est pas une hypothèse probable. Par contre, il y a une troisième hypothèse qui, elle, pour le coup, peut être probable. C'est que quelquefois, on dit de quelqu'un qu'il est comme un chameau awraq, c'est une expression en arabe, comme, c'est une expression qui a été utilisée par un hadith ou par un athar, si mes souvenirs sont bons, qui a attribué à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, où il aurait dit, en période de fitna, en période de trouble, soyez kun kal jamal al awraq, soit comme le chameau awraq. C'est quoi le chameau awraq ici dans cette expression? C'est pour dire comme le chameau qui, lorsqu'il est posé, il est assis, et qui est comme ça, tu as vu, le chameau, il est comme ça, il est posé, et sa mâchoire, elle bouge d'un côté et de l'autre. Et autour de lui, c'est l'apocalypse. Et lui, il est là, il regarde et il ne bougera pas. Et donc, cette expression, elle veut dire, soit en période de trouble, comme ce chameau-là. Ne te fais influencer par personne en période de trouble. C'est trop compliqué. Donc, pose-toi et laisse. Ça va passer. Fais comme le chameau. Aïwa. Et ici aussi, c'est possible. Parce qu'il est en plein milieu de la guerre. En plein milieu des combats. Et c'est pour dire, reste ferme pendant les périodes de trouble. Et donc, peut-être que ça veut aussi vouloir dire, ça peut aussi vouloir dire ça. Wallahu a'lam. Naam. Et d'ailleurs, dans un des poèmes, Abu Sufyan, quand il a fait son poème, alors qu'il était encore idolâtre à l'époque, pour décrire la bataille de Uhud, il va consacrer une de ses rimes à Hamza ibn Abdul Muttalib, il veut dire « Wa kana lada al-hayja'i ghayra hayubi » Et il était en plein milieu de la bataille, il ne faisait pas partie des lâches, en plein milieu de la bataille. Il n'a pas fait partie des lâches. Na'am. Ensuite, on a la version, si on continue à décrire le combat de Hamza ibn Abdul Muttalib, la version d'Ibn Ishaq, qui nous dit « Faja'ala yahuddu nasa bisayfi » Le verbe « hadda yahuddu » Hamza, il s'est mis à « hadda yahuddu nasa bisayfihi » avec son épée. Ça veut dire quoi le verbe « hadda yahuddu » Ça veut dire qu'il l'est fracassé avec son épée. Voilà comment il est décrit Hamza ibn Abdul Muttalib. Dans la version de l'imam Tabari, on nous dit la même chose, sauf que c'est un point de différence. Ce n'est pas Yahuddu, c'est Yahuddu. Et Yahuddu, ajib en arabe, un point peut faire toute la différence. Hadda et Hadda. Hadda, c'est plus pour illustrer le son que ça fait quand ça se brise, quand ça se casse. Et hadda, c'est pour signifier qu'on coupe, qu'on découpe. Et à la kulli hal, il y a une version qui dit qu'il fracassait, qu'il faisait le son là de ta, ça cassait de partout. Et il y a une version qui dit hein, qu'il découpait, qu'il tranchait. Non. Ça, c'est la richesse, subhanallah, de la langue arabe. Et surtout la subtilité, la nuance. Un seul point ou une seule différence de lettres peut tout changer. Non, ça peut aller d'un sens à un autre, d'un extrême à un autre. Ala kulli hal. Et ensuite, on a la version également d'Ibn A'id. Et celle-ci, elle est intéressante. Pourquoi ? Et c'est sur celle-ci que je terminerai. La version d'Ibn A'id, elle nous dit que Wahshi explique et il dit فَرَأَيْتُ رَجُلًا J'ai vu un homme. يَهُدُّ النَّاسَ هَدَّ Il fracassait les gens. Il avait le dessus sur tout le monde. فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ J'ai demandé qui est cet homme. فَقَالُوا لِي On m'a dit هَذَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Cet homme c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et il dit هَذَا حَجَتِي Voilà mon besoin, c'est-à-dire voilà ma mission. Donc ça sous-entend, si on en croit cette version, qu'il ne sait pas qui il est exactement, qu'il ne le reconnaît pas. Et donc il le cherche et il ne sait pas c'est qui. Et quand il voit un homme plus courageux que les autres, plus combatif que les autres, plus féroce que les autres, il dit « Qui est cet homme ?» On lui dit « C'est Hamza ». Il dit « Ah, c'est lui que je cherchais. » Et ensuite, comment ça va se passer ? Comment il va le tuer ? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك